Chapitre 4. Martin Eden, encore bouillant de rage, gagna sa chambre au fond du couloir obscur, une toute petite niche avec juste assez de place pour un lit, un lavabo et une chaise. Higginbotham était trop pingre pour confier à un domestique les travaux que sa femme pouvait faire, d'autant que la chambre de bonne lui permettait de prendre deux pensionnaires au lieu d'un. Martin posa le Swinburne et le Browning sur la chaise, retira son paletot et s'assit sur le lit. Un grincement de ressort asthmatique salua le poids de son corps, mais il n'en avait cure. Il commença à délacer ses chaussures en contemplant devant lui le mur de plâtre blanc que des infiltrations de pluie avaient maculé de longues traînées brunâtres, et, sur cet écran souillé, des visions enflammées se mirent à tournoyer. Il oublia ses chaussures et resta longtemps pensif. Puis ses lèvres remuèrent et il murmura « Route. Route. » Il ne savait pas qu'un simple mot pouvait être si agréable à l'oreille. Il le répéta jusqu'à l'ivresse. « Route. » C'était un talisman, une formule magique. Chaque fois qu'il le prononçait, il voyait son visage miroiter sur le plâtre sale, dans une foisonnante lumière dorée. Et cette lumière ne s'arrêtait pas au mur. Elle s'étendait à l'infini, comme un paysage phosphorescent où se perdait son âme et où s'épanouissait ce qu'il y avait de plus élevé en lui. La seule idée d'elle l'ennoblissait, le purifiait, le rendait meilleur ou l'incitait à le devenir. C'était nouveau pour lui. Il n'avait jamais connu de femme qui l'eût rendu meilleur, au contraire. Elle l'avait toujours poussé vers le mal. Nombre d'entre elles avaient pourtant fait de leur mieux, mais il ne s'en était pas rendu compte. N'ayant jamais été imbu de sa personne, il ignorait qu'il possédait le don de susciter l'amour des femmes. Si elle l'avait souvent ennuyé, lui ne s'était jamais ennuyé d'elle, et jamais il n'eût imaginé qu'une femme pût désirer devenir meilleure pour lui plaire. Il avait vécu dans une sublime insouciance jusqu'à aujourd'hui, et il était persuadé à présent d'avoir été le jouet d'enjôleuses et d'intrigantes. C'était injuste, pour elle autant que pour lui, mais il n'était guère en état de juger, et la vision de son infamie l'emplissait de honte. Il se leva brusquement pour se regarder dans la glace du lavabo. Elle était poussiéreuse. Il l'essuya d'un coup de serviette et se considéra longuement, avec attention. C'était la première fois qu'il se voyait vraiment. Ses yeux, éblouis par le panorama éternellement changeant du monde, s'étaient trop habitués aux horizons lointains pour se focaliser sur une image aussi proche. Il aperçut la tête et le visage d'un jeune gars de 20 ans, mais, étant peu coutumier de ce genre d'observation, il fut incapable de les évaluer. Au-dessus d'un front carré, il vit une masse onduleuse de cheveux châtains, dont les boucles étaient une tentation pour les doigts des femmes et éveillaient en elles des désirs de caresse. Mais, estimant la chose sans mérite à ses yeux, il s'attarda pensivement sur son front haut et large, en s'efforçant d'en sonder le contenu. Quel genre de cerveau se cachait là derrière? De quoi était-il capable? Jusqu'où le mènerait-il? Le mènerait-il à elle? Il se demanda s'il y avait une âme derrière ses yeux gris acier, qui avait si souvent reflété le bleu du ciel, vivifié par la brise du large et les soleils marins. Quelle impression avait-il produite sur elle? Il essaya de s'imaginer à sa place et de voir ce qu'elle avait vu. Impossible exercice. Il arrivait facilement à se mettre à la place des autres hommes, mais parce que c'était des hommes et qu'ils menaient la même vie que lui. Or, il ignorait tout de sa vie à elle. Elle était un mystère. Comment pouvait-il deviner une seule de ses pensées? Bah, c'était des yeux honnêtes, en somme, francs et sans vilenie. Le hâle de son visage le surprit. Il ne s'était pas cru si noir. Il retroussa sa manche et regarda la face interne de son bras. Elle était plus pâle. Aucun doute, c'était le bras d'un homme blanc. Il fit jouer son biceps avec son pouce pour examiner sa peau, près de l'aisselle, là où le soleil n'avait pas de prise. Elle était blanche comme neige, et cela le fit rire. Dire que son visage avait naguère été aussi blanc que le dessous de ses bras. En vérité, peu de femmes au monde eussent pu se vanter d'avoir la peau plus claire et plus lisse que la sienne, sans les ravages du soleil. Sa bouche eût été celle d'un chérubin, n'eût été le pli que ses lèvres sensuelles avaient pris dans la crispation répétée de l'effort. Elles étaient parfois si tendues qu'elles en paraissaient décharnées. c'étaient les lèvres d'un combattant et d'un amant. Elles avaient savouré les douceurs de la vie et goûté à l'amertume des renoncements. Le menton et la mâchoire, carrés et volontaires, étaient ceux d'un chef. La force, qui contrebalançait et tonifiait sa sensualité, donnait à son amour de la beauté une saine ferveur, exempte de toute lascivité. Il regarda ses dents. Blanches, solides et régulières, elle n'avait jamais eu besoin de dentiste. Mais soudain, cette idée le troubla. N'avait-il pas entendu dire que certaines personnes se brossaient les dents quotidiennement? Des gens de la haute? Des gens comme elle? Elle les lavait probablement tous les jours, elle aussi. Que penserait-elle de lui si elle apprenait qu'il ne l'avait pas fait une seule fois dans sa vie? Il décida de se procurer une brosse à dents et de changer ses habitudes. Il commencerait dès demain. S'il voulait la conquérir, il devait mettre de l'eau dans son vin et réformer son mode de vie dans les moindres détails, du brossage des dents au port du col à mi-donné, même si c'était un carcan pour lui qui haïssait tant les contraintes. Il ouvrit sa main et passa le pouce sur sa paume calleuse. La crasse s'y était tellement incrustée qu'aucune brosse ne pouvait l'effacer. Quelle différence avec la paume de route, douce comme un pétale de rose et fraîche comme un flocon de neige, songea-t-il avec un délicieux frisson. Il se laissa aller à imaginer ce que devait être la caresse d'une telle main et rougit aussitôt comme un coupable. Comment osait-il avoir de pareilles pensées? C'était une insulte à sa haute spiritualité, c'était la confondre avec un banal être de chair. Mais il avait beau faire, le souvenir de sa douceur perdurait dans sa mémoire. Il était habitué aux callosités des filles d'usine et des ouvrières. Il savait bien, va, pourquoi leurs mains étaient rêches et celles de route si douces. C'était parce qu'elles n'avaient jamais travaillé. Voilà le gouffre qui les séparait. Elle était de ces gens qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. L'aristocratie oisive lui apparut tout à coup comme une statue d'airain, arrogante et toute puissante, sur le mur devant lui. Il avait toujours trimé, lui. Tous ses souvenirs, depuis l'enfance, étaient liés au labeur. Toute sa famille avait peiné à la tâche. Et Gertrude, quand ses mains n'étaient pas endurcies par ses interminables corvées ménagères, elles étaient étuvées comme du bœuf bouilli par les lessives. Et sa sœur Marianne, elle avait travaillé à la conserverie pendant l'été, et l'épluchage des tomates avait couvert de cicatrices ses jolies mains frêles. Le massicot de la manufacture de carton l'hiver précédent lui avait même rogné deux phalanges. Il revit les paumes rugueuses de sa mère, gisant dans son cercueil, et les mains de son père qui s'était tué à l'ouvrage, racornies comme des manicles de cuir au jour de sa mort. Mais ses mains étaient douces, comme celles de madame sa mère et de messieurs ses frères. Oui, même ses frères. Quelle preuve irréfutable de l'inaccessibilité de leur caste et de la barrière infranchissable qui se dressait entre eux. Il se rassit sur le lit avec un rire amer et retira ses chaussures. Fallait-il qu'il fût sot pour s'être ainsi laissé enivrer par le visage et les douces mains blanches d'une femme? Une vision soudaine passa devant ses yeux, sur le plâtre souillé du mur. Il était debout devant une lugubre maison de rapport. C'était la nuit, à Londres, dans l'East End, et devant lui se tenait Margie, une petite ouvrière de 15 ans qu'il avait raccompagnée chez elle après le banquet de fin d'année. Elle vivait dans cette triste bâtisse, ce taudis tout juste bon à loger des porcs. Il lui tendait la main pour lui dire adieu, et elle lui tendait les lèvres pour qu'il l'embrassât. Mais il ne le voulait pas, elle lui faisait presque peur. Alors, elle lui avait pris la main et l'avait serrée avec amour. En sentant la rugosité de sa paume, il avait été envahi par une immense vague de pitié et attendri par ses regards avides, par sa silhouette grêle de fillette mal nourrie, trop vite arrachée à l'enfance et déformée par une maturité implacable. Il l'avait entourée de ses bras et avait baisé sa bouche. Elle s'était agrippée à lui comme une chatte en étouffant un cri de joie. Pauvre petite affamée. C'était un souvenir déjà ancien, mais il en avait encore la chair de poule et le cœur brûlé. Puis, à cette vision de grisaille et de pavé mouillé, succéda une radieuse clarté qui inonda le mur, effaçant en un éclair toutes les autres images. Et ce fut son pâle visage qui resplendit sous sa couronne de cheveux d'or, intangible et distant comme une étoile. Il prit le Browning et le Swinburne sur la chaise et les embrassa. « N'importe, elle m'a dit de revenir. Il se regarda une dernière fois dans la glace et dit à voix haute, avec beaucoup de solennité, « Martha Eden, demain, à la première heure, tu iras à la bibliothèque publique et tu t'instruiras sur le savoir-vivre. Compris ?» Il ferma le gaz et les ressorts couinèrent sous son poids. « Mais il faut que t'arrêtes de jurer, mon gars. Faut que t'arrêtes de jurer » répéta-t-il. Puis il sombra dans un sommeil peuplé de rêves qui rivalisèrent d'audace et de folie avec ceux des mangeurs de pavots.